L'invité de Pluriel est Francis Wurtz, ancien député européen PCF, président de l'Institut d'études européennes de Paris 8, enseignant à l'IRIS. Bonsoir.
Bonsoir.
Francis Wurtz, vous avez été député européen pendant 30 ans. Vous avez été élu pour la première fois lors des premières élections européennes en 1979, époque où le Parlement était présidé par Simone Veil. Vous êtes donc l'une des personnalités françaises qui connaît le mieux les institutions européennes. Ces élections européennes de mai 2019 sont-elles les plus importantes depuis la création du Parlement européen?
Je ne sais pas si elles sont les plus importantes, mais elles sont sans doute les plus préoccupantes. Parce que il y a une crise existentielle de l'Union européenne pour différentes raisons, mais la raison à laquelle je veux faire allusion en disant que les élections de mai prochain sont les plus préoccupantes, c'est la montée des forces nationalistes d'extrême droite, encore illustrée scandaleusement, honteusement, par l'absence de 8 pays de l'Union européenne sur 27 ou 28 à Marrakech pour la signature de ce texte sur les migrations des Nations Unies. C'est quelque chose d'absolument inimaginable, compte tenu de ce qu'on appelle encore les valeurs de l'Union européenne. Donc, c'était longtemps, en quelque sorte, le très malheureux privilège des pays d'Europe de l'Est. Maintenant, c'est également le cas de l'Italie, notre grand voisin que nous chérissons tous, et de l'Autriche. On se demande où ça va s'arrêter. Donc, le grand péril que nous devons tenter de conjurer, c'est que la même évolution qu'au niveau des États se produise au niveau des députés. Ça changerait évidemment complètement la donne pour l'avenir proche. Cela dit, nous avons encore près de 6 mois devant nous. Nous essaierons de faire mentir ces prévisions très redoutables.
Comment expliquez-vous, Francis Wurtz, cette défiance des Européens vis-à-vis de cette institution qu'est l'Union européenne?
J'explique tout à fait la défiance. Mais ce que je viens d'évoquer est une très mauvaise réponse au dysfonctionnement de l'Union européenne. Je comprends très très bien la défiance. Elle ne date pas d'aujourd'hui, elle ne fait simplement que s'accentuer. Elle est due, à mon avis, à deux choses pour l'essentiel. D'une part, l'orientation extrêmement libérale sur le plan économique et extrêmement autoritaire sur le plan politique. C'est-à-dire que vous pouvez, dans votre pays, chaque peuple, tous les citoyens, toute la société dans un pays peut toujours changer de gouvernement, changer de majorité, changer de président. Mais fondamentalement, les grandes tendances économiques libérales continuent. C'est-à-dire que dans les traités européens, élaborés, signés par les dirigeants de nos pays respectifs, dans les traités européens, il est spécifié dans le détail un seul modèle économique, à savoir le modèle libéral et même le modèle libéral de plus en plus poussé. Et en quelque sorte, on n'en discute plus. Ce n'est plus un sujet de délibération politique. C'est comme si c'était une loi naturelle. Et ça, c'est fondamental dans l'analyse de la crise politique et de la crise de défiance. Et puis l'autre aspect, je disais, c'est l'autoritarisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça s'est beaucoup accentué depuis la crise financière de 2008 et la crise de la zone euro qui a suivi. C'est que pour, en quelque sorte, conjurer le refus compréhensible, justifié et massif des populations européennes de payer les pots cassés par les financiers, ils ont institué, c'est les États membres hein, qui ont institué ce qu'ils appellent la réforme de la gouvernance économique et qui apporte toute une série de contraintes extrêmement lourdes, comme par exemple le fait que chaque État membre doit soumettre à Bruxelles son budget prévisionnel chaque année, avant même que les députés élus par le suffrage universel, députés nationaux, ne puissent l'examiner, et doit justifier une éventuelle augmentation des dépenses publiques qui aille au-delà du coefficient qui lui a été attribué, etc. C'est quelque chose de totalement inacceptable sur le plan démocratique. La Banque Centrale Européenne, qui est une des institutions les plus puissantes de l'Union Européenne, puisqu'elle a le pouvoir fabuleux de créer de l'argent à partir de rien et dans des quantités quasi illimitées, est structurellement, d'après les traités, totalement indépendante des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'aucune institution émanant des citoyens, donc, n'a le droit de lui donner la moindre consigne, etc., etc. Vous voyez, ce sont des choses qui ne peuvent pas, à la longue, passer. Voilà pourquoi il y a cette crise de défiance.
Alors, vous nous dressez un constat plutôt pessimiste, et pourtant, on peut changer les choses en votant aux élections européennes ?
Je pense que il faut séparer deux choses. Il faut, je pense, dans la durée, arriver à des ruptures avec la logique des traités actuels.
Et il faut changer de traité.
Et il faudra arriver à changer les traités quand le rapport de force le permettra, dès que le rapport de force le permettra. Mais avant qu'on arrive à changer les traités, d'ores et déjà, il faut, en quelque sorte, ignorer les traités si, comme par exemple actuellement en France, s'il y a un mouvement social, un mouvement citoyen suffisamment puissant pour exprimer l'exigence salutaire de plus d'égalité, de plus de justice sociale, de plus de respect des droits citoyens, il ne faut pas dire, il ne faut pas essayer de réfréner ces exigences sous prétexte que leur concrétisation irait à l'encontre des traités.
Vous Donc il faut en quelque sorte les ignorer. Vous êtes en train de nous dire, Francis Wurtz, qu'un gouvernement français qui déciderait de ne pas appliquer l'austérité budgétaire,
je le soutiendrai,
serait en droit de le faire, même si ça allait en contradiction avec les traités européens.
Je le pense absolument. Ces traités sont largement illégitimes. Vous savez, moi, j'avais été très, très engagé, mais vraiment très, très engagé, dès le premier jour, dans la critique du traité constitutionnel européen 2005. J'avais commencé avec mon parti, le Parti communiste, la bataille de vulgarisation, au bon sens du terme, de ce traité dès septembre 2003.
Vous étiez ce qu'on appelait un lanceur d'alerte.
On peut le dire. Nous avions fait un travail formidable, c'est peut-être de toute ma vie militante et politique, la page la plus enthousiasmante. Nous avons vraiment fait de la pédagogie politique. Nous avions diffusé à plusieurs millions d'exemplaires ce qu'on appelle un tiré à part du journal L'Humanité, ce qu'on avait appelé la face cachée du traité Giscard, parce que c'était Valéry Giscard d'Estaing qui avait présidé la convention qui avait élaboré le projet de traité constitutionnel. Et petit à petit, au début, il y avait 25 personnes dans les salles, et à la fin, il y en avait 600 ou 800. Des simples gens qui n'ont
Avec
jamais...
Avec la victoire du non, au bout
du compte. Et finalement, la victoire du non. Mais à la limite, même si on n'avait pas réussi la victoire du non, cet exemple de démocratie citoyenne était quelque chose de formidable. On a réussi à faire de la politique au sens le plus noble du terme à de simples citoyens qui n'ont jamais fait de droit constitutionnel, mais qui posaient des questions extrêmement pertinentes, voire faisaient des suggestions extrêmement justes, avec un échange de haut niveau, sans aucune démagogie. Quand certains disaient, par exemple, « Il faut absolument voter non, parce que si le oui gagne, on va devoir envoyer des soldats en Irak. » Je leur disais, écoutez, il y a suffisamment de mauvaises choses dans ce traité, c'est pas la peine d'en inventer. Ce n'est pas vrai, c'est la France qui décidera si on va en Irak ou pas. Donc, on n'a pas fait de démagogie, mais on a donné aux citoyens les moyens de se faire une idée, d'exercer leur esprit critique, de s'impliquer dans quelque chose qui devait déterminer leur avenir. Et ben, écoutez, là, il y a eu une victoire du non, vous le rappelez, et néanmoins, les autorités françaises et européennes n'en ont eu cure, et ils ont transformé cela en traité de Lisbonne, et en dehors de deux, trois détails superficiels, le traité de Lisbonne, c'est le traité constitutionnel qui devait aller au panier.
Finalement, vous êtes en train de nous dire que les dirigeants de l'époque sont en grande partie responsables de la montée du populisme aujourd'hui ?
Je crois qu'effectivement, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, aussi bien la fuite en avant libérale sur le plan économique et les entorses extrêmement graves à la démocratie sont, et leur accumulation, sont à l'origine de cette défiance qui, malheureusement, au lieu de s'exprimer vers une transformation positive, progressiste, solidaire de l'Union européenne, conduit actuellement, massivement, vers une tendance au repli et au chacun pour soi.
Alors Francis Wurtz, vous nous dites que ce traité est illégitime, mais qu'on ne peut pas le changer pour l'instant parce que le rapport de force ne le permet pas. Pour autant, il y aura des élections européennes en 2019, 40 ans après votre première élection, Francis Wurtz. Les citoyens français peuvent contribuer tout de même à un changement avec ces élections ?
Absolument, absolument. On sous-estime, en France et ailleurs d'ailleurs, on sous-estime considérablement les prérogatives du Parlement européen.
Il y a beaucoup d'idées reçues sur le
rôle du Parlement
européen.
Beaucoup d'idées reçues et vraiment mal reçues. C'est-à-dire, certes, le Parlement européen n'a pas le pouvoir de changer les traités, mais il a de très grands pouvoirs avec les traités actuels. J'en évoquerai trois qui me paraissent particulièrement structurants. Le premier, c'est le pouvoir législatif, c'est-à-dire que le Parlement européen est co-auteur avec les gouvernements européens des lois européennes, ce qu'on appelle les directives ou les règlements. Contrairement à ce qui se dit, ce n'est pas la Commission européenne qui les impose, elle n'en a pas le pouvoir, elle les propose, et c'est le Parlement européen et le Conseil, donc c'est-à-dire les gouvernements, qui disposent. C'est-à-dire qu'aucune des directives, si souvent l'objet légitimement de mécontentement, de protestation dans nos pays, il faut savoir qu'aucune de ces directives n'existerait s'il n'y avait pas eu une majorité de parlementaires européens pour les voter. Premier pouvoir. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir budgétaire. Toutes les dépenses budgétaires de l'Union européenne passent par le Parlement européen. Il a le dernier mot. Il doit négocier avec les gouvernements, mais s'il y a conflit entre les deux, le dernier mot revient au Parlement européen. Et troisième illustration de ces pouvoirs, c'est le pouvoir de pression très fort sur la Commission européenne, à condition de le vouloir. Il y a même un pouvoir absolu, ce qu'on appelle dans notre jargon la bombe atomique, qui est le pouvoir de voter la censure de la Commission. C'est-à-dire, s'il y a une majorité de parlementaires qui votent la censure de la Commission démissionne. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ça s'est produit en 98, une seule fois, où certes, on n'est pas arrivé à la motion de censure, mais la veille du jour où devait être votée la motion de censure, la Commission européenne a démissionné pour ne pas subir l'humiliation suprême de cette motion de censure. Donc, je ne propose pas d'utiliser cet instrument à tout bout de champ, mais le fait de faire comprendre à la Commission européenne qu'on l'a à l'œil, qu'on exerce notre pouvoir de contrôle qui est inscrit dans les traités, mais qui n'est pas exercé réellement, qu'on l'exerce, qu'on veut l'exercer, et que s'il nous méprise, s'il ne nous écoute pas dans la façon de gérer comme pouvoir exécutif, pas législatif, comme pouvoir exécutif de gérer les choses, si elle n'entend pas ce qu'on lui demande au nom des citoyens qui nous ont élus, eh bien nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Et donc tout dépend en quelque sorte de la qualité et de l'orientation des députés envoyés par nos concitoyens et concitoyennes au Parlement européen. Or de ce point de vue-là, il faut regretter amèrement le taux incroyable d'abstention aux élections européennes.
C'est l'une des élections qui intéresse le moins les électeurs.
Je ne sais pas si elle l'intéresse pas, mais en tout cas, ils ne ressentent pas la nécessité ou ne sentent pas l'utilité de se déplacer pour aller voter. Je fréquente beaucoup d'étudiants. Souvent, les étudiants, à cause notamment d'Erasmus, de la libre circulation des personnes, etc., au-delà des frontières, ont une attitude plutôt positive à l'égard de l'idée européenne, mais c'est aussi eux qui s'abstiennent le plus. Il y a, aux dernières élections, en France, il y a eu 73% des moins de 35 ans qui se sont abstenus pour les élections européennes. Imaginons qu'une partie de ceux-là expriment leur insatisfaction par l'envoi à Strasbourg et à Bruxelles de parlementaires progressistes, et pourquoi pas, puisque je suis communiste, je vais défendre ma chapelle, des parlementaires communistes qui disent clairement sur quoi ils s'engagent, et on peut voir sur 40 ans qu'ils ont toujours tenu parole, parce que ça, je suis prêt à en débattre avec qui le veut, ça changerait la donne.
Francis Wurtz, une question d'actualité. Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, répète depuis quelques jours qu'il va introduire une taxe à l'échelle française pour les GAFA, les géants du web, si l'Union européenne ne se met pas d'accord pour taxer ces grandes entreprises qui s'organisent pour échapper à l'impôt sur les sociétés. D'abord, est-ce que vous croyez le ministre? Est-ce que la France peut prendre une telle décision de manière unilatérale?
Elle peut le faire, et je soutiendrai cette idée. Ce serait évidemment beaucoup plus efficace si c'était un impôt à l'échelle de l'Union européenne. Malheureusement, plusieurs pays, dont l'Allemagne, bloquent ce projet qui est on ne peut plus nécessaire. L'Allemagne bloque cela. Pourquoi ? Parce qu'elle a peur des représailles des États-Unis contre certains grands industriels.
Son industrie automobile,
notamment. L'automobile en particulier. Et comme les rapports de l'Allemagne avec les États-Unis actuellement ne sont pas au beau fixe, c'est moins qu'on puisse dire, il préfère en quelque sorte sacrifier les intérêts des Européens aux intérêts des grands constructeurs de l'automobile en Allemagne. Mais oui, on peut.
Ce serait un geste fort tout de même de la France si elle le faisait.
Je pense que le gouvernement mesure actuellement que l'injustice fiscale est l'un des ressorts les plus puissants de la protestation des citoyens. Et donc, il cherche à faire quelque chose de significatif, et je soutiens cette proposition.
L'invité de Pluriel est Francis Wurtz, ancien député européen communiste, président de l'Institut d'études européennes de Paris 8. Vous êtes également enseignant à l'IRIS. On se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de Pluriel, nous sommes toujours en compagnie de Francis Wurtz, ancien député européen PCF, président de l'Institut d'études européennes des 5-4-3-2-1-0. Retour sur le plateau de Pluriel avec Francis Wurtz, ancien député européen communiste. Vous êtes également président de l'Institut d'études européennes de Paris 8, enseignant à l'IRIS. Alors, lorsque vous étiez député européen, vous êtes beaucoup intéressé aux questions diplomatiques. Radio-Orient vous a souvent contacté pour avoir votre point de vue sur les questions du Proche-Orient.
Absolument.
Vous êtes un soutien de la cause palestinienne. Est-ce qu'il existe une diplomatie européenne aujourd'hui ?
Elle est très, très faible. Elle est très faible, d'abord parce que il y a beaucoup de divergences entre les États membres sur les questions internationales. Or, en matière internationale, le Parlement européen n'a pas de pouvoir direct. Il a un pouvoir d'influence, mais pas un pouvoir de décision. Cela relève des États membres, il faut qu'ils se mettent d'accord sur une position, et actuellement c'est de plus en plus difficile. Et qui dit division dit en quelque sorte inexistence de l'Union européenne en tant que telle sur la scène internationale. Première raison. Deuxième raison, il y a une sorte de soumission congénitale aux États-Unis, même quand ce pays est présidé par un individu à aucun point de vue recommandable, qui dit ouvertement que l'Union européenne est son ennemi, qui insulte la chancelière allemande un jour, le président français un autre jour, et néanmoins, on ne se permet pas de risquer de froisser Washington. Aussi bien sur le plan militaire avec l'OTAN que sur le plan économique, on vient d'en avoir une illustration tout à l'heure avec les GAFA, ce qui fait que l'Europe est inexistante sur le plan international. Même par exemple avec actuellement le conflit entre les États-Unis et la Chine, le conflit économique mais très 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 grave, très important, qui peut ouvrir vers un conflit plus direct encore. Même dans ce domaine, au lieu de choisir le multilatéralisme, la coopération avec ceux qui l'acceptent, et la Chine, qui a des défauts par ailleurs, accepte ce principe, non, mais les dirigeants européens comptent sur les États-Unis pour, en quelque sorte, réduire l'influence potentielle de la Chine sur le plan international. Je trouve qu'il y a un manque d'esprit stratégique. Je donne un autre exemple. Il y a une dizaine d'années, c'est exactement 10 ans, c'était au mois de mai 2008, le président russe de l'époque, M. Medvedev, avait tenu un discours à Berlin, à l'adresse de toute l'Union européenne, sur la question de la sécurité du continent européen, en disant « Nous avons beaucoup de différends entre nous, ça peut devenir dangereux, donc il faut mettre tout ça sur la table, travaillons ensemble à un traité pan-européen de sécurité et de coopération, une sorte d'Helsinki 2 », allusion à la conférence de 1975. On avait réussi à faire ça en pleine guerre froide, et aujourd'hui, non. Pourquoi ? Parce que l'OTAN ne souhaite pas, en quelque sorte, qu'il y ait un royaume dans son empire, ne souhaite pas que l'Union européenne puisse se mettre d'accord avec la Russie, par exemple, contre l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, ou contre l'installation du bouclier antimissile en Pologne, en République tchèque. Et donc, une fois de plus, à cause d'intérêts stratégiques d'une autre puissance, à savoir les États-Unis, on refuse notre propre intérêt, qui serait de se mettre autour d'une table, quels que soient les régimes, quoi qu'on pense des uns et des autres. Moi, je ne suis pas, je ne me sens pas un ami de Poutine, loin de là. Mais ce n'est pas le sujet. La question, c'est la sécurité collective. C'est en quelque sorte de s'engager à ce que personne ne fasse rien au nom de sa propre sécurité qui mette en cause la sécurité des autres. Eh bien voilà, l'Union européenne est, de ce point de vue-là, malheureusement, se montre incapable d'initiatives indépendantes sur le plan international.
L'un des sujets, Francis Wurtz, qui devrait être débattu lors de ces élections européennes, c'est la question de l'immigration. Ces derniers jours, on a appris que l'Aquarius ne pourrait plus aller porter secours aux migrants qui se noient en mer Méditerranée faute de pavillons. En matière d'immigration, est-ce que l'Union européenne est aujourd'hui prise en otage par l'Italie de Salvini, par la Hongrie de Orban ?
Je ne sais pas s'ils sont pris en otage. Je crains que l'Italie et la Hongrie actuelle, c'est la partie visible de l'iceberg.
Vous voulez dire qu'ils disent tout haut ce que d'autres États pensent tout bas ?
Oui, peut-être de façon un peu moins caricaturale, mais oui, je pense qu'aujourd'hui, une majorité de pays européens ont l'idée de fermer les frontières autant que faire se peut, d'établir des murs physiques ou implicites pour empêcher les hordes de migrants de venir troubler leur sérénité. C'est une politique non seulement moralement désastreuse, éthiquement inacceptable, mais je pense complètement contre-productive et totalement illusoire. Totalement illusoire. Moi, j'avais été, quand j'étais parlementaire européen, avec mon groupe, à Lampedusa, au large de la Sicile, pour rencontrer des... Parce que la loi italienne permet, ou permettait en tout cas, aux parlementaires européens d'entrer dans ces centres de rétention pour rencontrer des réfugiés, et écouter leur expérience. On a bien vu, et on le voit depuis malheureusement de plus en plus, que ces hommes et ces femmes sont prêts à risquer leur vie, même parfois à risquer deux fois leur vie, pour fuir ou la guerre ou la misère, en tout cas l'absence totale de perspective. Eh bien, je pense qu'on n'empêchera pas, aucun mur n'empêchera ces hommes et ces femmes de se trouver, de chercher à se trouver un havre de paix. Premièrement. Deuxièmement, on est dans la mondialisation. Il y a quelque chose de totalement nouveau par rapport à avant. Avant, il y avait les pays riches, les pays pauvres, sauf qu'aujourd'hui, avec la télévision, les médias, les réseaux sociaux, les pauvres savent que la richesse existe. Et donc, ça devient insupportable. Et qui plus est, cette pauvreté, nos pays y contribuent. Parce que le pillage néocolonial existe et se pratique à grande échelle. Donc, je pense que cette attitude vis-à-vis des migrations, c'est un combat d'arrière-garde et il faut absolument empêcher que ces idées rétrogrades, en quelque sorte, arrivent à flatter les consciences des gens parce que ce serait terrible pour notre civilisation humaine.
Vous êtes inquiet aussi de voir la prolifération de fausses informations, de fake news sur les réseaux sociaux au sujet de l'immigration notamment ?
Oui, on l'a encore vu avec justement la conférence de Marrakech dont je parlais. Oui, il y a un effet pervers. Il y a par ailleurs des effets positifs, mais il y a un effet pervers gravissime de ces réseaux sociaux, c'est qu'on y trouve tout. Les gens sont aujourd'hui inondés d'informations, mais sans avoir les moyens de trier le vrai du faux. Je ne parle pas du juste ou du pas juste, ça c'est le propre de chaque individu de se faire son opinion, mais des fausses nouvelles et qui sont simplement destinées à tromper les gens. Donc oui, je pense que ça suppose qu'il y ait un débat politique, encore une fois, au bon sens du terme, c'est-à-dire des débats contradictoires qui permettent aux citoyens de se faire une opinion en connaissance de cause pour intervenir ensuite, comme il l'entend ou elle l'entend, dans les grands débats.
Francis Wurtz, il y a une petite musique qu'on entend de plus en plus. La France aurait tout intérêt à quitter l'Union européenne pour retrouver sa souveraineté sur ses frontières, sur sa monnaie, sur son budget. Qu'est-ce que vous répondez à ces partisans du Frexit qui sont très nombreux, en tout cas, sur les réseaux sociaux ?
J'y suis totalement hostile. J'ai pendant les 30 ans où j'étais parlementaire européen, et depuis, je n'ai pas cessé de le faire, j'ai critiqué sévèrement les orientations actuelles de l'Union européenne, mais en aucun cas je préconiserais la sortie ou l'éclatement de ces structures. Je pense que nous devons arriver à humaniser la mondialisation, et un élément indispensable pour humaniser la mondialisation, c'est de transformer positivement l'Union européenne. C'est pas de se recroqueviller, c'est de coopérer réellement, de coopérer autrement, non pas avec une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, où chacun est un peu l'ennemi de chacun, non. Vraiment, la solidarité, la coopération pour humaniser la mondialisation. Sinon, nous nous préparerions à un avenir terrible. Cela dit, on vous dites que sur les réseaux sociaux, ça a du succès. Cela dit, quand on regarde les enquêtes d'opinion, il y en a encore une qui vient de paraître il y a deux jours, où, il y a plus de deux tiers des Français aujourd'hui, maintenant, malgré la crise et tout, qui disent, qui sont très critiques, de façon justifiée d'ailleurs, vis-à-vis de l'Union européenne, mais disent en aucun cas il faut quitter l'Union européenne.
Vous nous avez dit tout à l'heure que l'un des rôles du Parlement européen, c'était de voter des budgets. On ne sait pas toujours en quoi nous sommes aidés par ces budgets. Où est la part européenne dans la construction de structures en France? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce sujet?
Oui, par exemple, alors, prenons un secteur, l'agriculture. L'agriculture française, sans les aides européennes, n'existerait plus. Il y a, je crois que l'Union européenne verse à la France, et aux agriculteurs français, quelque chose comme 8 milliards d'euros par an. Ce sont des sommes considérables sans lesquelles les agriculteurs français seraient livrés à la terrible concurrence mondiale. Et il n'y a pas que l'agriculture qui disparaîtrait, mais ce serait un très grand préjudice pour l'industrie agroalimentaire, pour l'entretien de nos territoires, pour l'aménagement de l'espace rural, et même, y compris l'environnement. Donc ça, c'est un aspect. Un autre grand aspect, c'est ce qu'on appelle les fonds structurels. Le Fonds social européen, le Fonds d'aide aux régions, les fonds de cohésion, les fonds pour la mer et la pêche, ce sont des sommes très importantes qui, plus est, sont souvent l'objet de cofinancement, c'est-à-dire que X milliards européens conduisent à X milliards nationaux, français, et à d'autres sur le plan régional. Donc, c'est quelque chose de très structurant. Ensuite, dans le domaine de la recherche, non seulement il y a un budget non, européen non négligeable, mais je serais pour qu'on le renforce. Parce que, pour qui connaît un peu le monde de la recherche, on sait qu'il n'y a pas de recherche sans coopération. Moi, je me félicite quand je vois que, malgré les tensions internationales, on arrive à des expériences spatiales avec des cosmonautes, en même temps avec des cosmonautes américains, russes et français, par exemple, ou allemands. Je crois que le budget européen, qui est relativement minime globalement, c'est 1% des richesses produites, 1% du PIB, mais il n'empêche que dans la mesure où ça permet d'orienter de façon convergente des sommes vers une utilisation, si cette utilisation est positive, je pense que c'est un levier intéressant.
Francis Wurtz, il y aura deux listes concurrentes aux européennes, la France Insoumise et celle du PCF, qui sera dirigée par Yann Brossa. Le projet européen des communistes est-il très différent de celui des Insoumis ?
D'abord, nous souhaitions qu'il y ait une liste de rassemblement des forces de gauche transformatrices. Les forces, vous citez la France Insoumise, elle est très critique par rapport à l'Union européenne actuelle, nous aussi. Des forces de ce genre, ou également en Génération de Benoît Hamon, nous souhaitions qu'il y ait la possibilité de faire une liste de rassemblement. Non pas qu'on s'aligne les uns sur les positions des autres, chacun peut conserver sa position, mais qu'on trouve un certain nombre de d'axes communs sur lesquels on puisse se mettre d'accord. Et d'ailleurs, moi j'ai été président de groupe pendant 10 ans d'un groupe qui s'appelait la gauche unitaire européenne et de la gauche verte nordique, il y avait une quinzaine de composantes nationales très différentes, parfois deux ou trois composantes d'un même pays qui étaient dans le même groupe. On a fait un excellent travail et en 10 ans, on n'a pas voté entre nous pour nous mettre d'accord, pas une fois. Pendant 10 ans, pas une fois, on a toujours réussi à trouver une convergence suffisante pour agir.
Donc là, il y a une occasion manquée.
Ça a été refusé.
Et c'est parce que l'agenda de ces élections n'est pas tout à fait européen pour les partis politiques qui pensent un petit peu à l'après.
Il y a à l'évidence des différences et même des divergences entre nous. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon varie souvent dans l'expression de ses positions, mais fondamentalement, il y avait ce qu'il appelait le plan A et le plan B. Il n'en parle plus tellement maintenant, mais c'est écrit. Ça veut dire qu'il disait, si je suis élu président de la République, puisqu'il pense beaucoup à ça, même quand c'est des élections européennes, il a dit, je rencontrerai les autres chefs d'État et de gouvernement et je leur dirai, voilà, nous, c'est ça qu'on veut, et si vous n'êtes pas d'accord pour changer les traités comme je le veux, ben on s'en va. Ça, c'est le plan B.
Donc ça, c'est insupportable pour vous, l'idée qu'on puisse quitter l'Union européenne.
Pour nous, c'est surtout extrêmement trompeur. Ça flatte auprès des gens qui n'ont pas tous les éléments pour se faire une opinion complète. Ça flatte l'idée qu'il y a là une solution, alors que ce n'est pas une solution. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, qui est un homme intelligent, le sait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il le dit beaucoup moins, parce que justement, les enquêtes d'opinion montrent que ça ne passe pas. Et puis les gens, quand ils voient les problèmes que pose le Brexit aux Britanniques, ils n'ont pas tellement envie d'importer une telle catastrophe en France. Donc, ça c'est une chose. Ensuite, il est beaucoup plus distant par rapport aux enjeux européens proprement dit. Il dit on veut faire de l'élection européenne le moyen de mettre une raclée à Macron. Nous, on est totalement d'accord pour mettre une raclée à Macron, mais les élections européennes ont des enjeux propres qu'il ne faut pas laisser passer. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc, il y a évidemment des différences entre nous, mais je pense que ces différences auraient pu être surmontées, en tout cas, n'auraient pas empêché nécessairement une liste commune sur un certain nombre d'axes communs sur lesquels on aurait pu se mettre d'accord. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas et effectivement, c'est un grand dommage.
Merci Francis Wurtz, ancien député européen PCF, d'avoir été l'invité de Pluriel.
Merci.
Bonsoir.
À vous.